5h du matin, j'étais parti marcher dans les rues de Joué-Tours. Et puis ça a duré pratiquement 2 mois. Et je marchais sans but. J'errais dans la ville de Joué-Tours, dans le parc de la Rabière, en me posant des questions, c'est ça la retraite ? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Je ne veux pas passer ma vie à bricoler dans le jardin. Est-ce que j'aurai des petits-enfants ? Ça m'occuperait. Quelque chose de pénible à vivre, cette coupure du monde actif. Eh bien, on a l'impression de ne plus être utile. C'est quelque chose de terrible de dire je suis à la retraite, mais je fais quoi? Je ne sers plus à rien. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans, donc je ne sais pas ce que c'est que de ne rien faire. Et la retraite, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que on bricole chez soi. D'accord, on bricole chez soi, mais le bricolage, non, c'est pas... Ma vie a toujours été régie par des horaires précis pour travailler, la période de repos. Maintenant, je n'ai plus de repères. Je n'ai plus de repères du tout à ce niveau-là, complètement... Vous vous rendez compte aussi, sans passer pour quelqu'un de vieux, entre guillemets, que physiquement, vous n'avez plus la même ardeur, la même activité que vous pouvez l'avoir lorsque vous étiez au travail. Parce que, est-ce qu'on s'encroûte ? Très certainement. Vous n'avez pas de pression. Or, je pense que toute ma vie, moi, tout ce qui m'a fait avancer, c'était d'avoir la pression. Ou de me mettre la pression. Là, maintenant, c'est pas fait aujourd'hui. Oh ben, je ferai demain. Et ça n'a jamais été dans mes principes de travailler. Et je me rends compte que c'est devenu comme ça. Mais je ne chercherai même pas à retourner à l'ancien service où j'étais. Parce que... Parce que j'ai vu des retraités venir, et en définitive, ceux qui venaient en repartaient, désolés d'avoir dérangé. Et puis désolé aussi de voir que les gens ne prenaient plus le temps de discuter avec eux.
Donc, en face, droit devant nous, c'est l'entrée de l'usine Renault-Le Mans. Et Renault-Le Mans, quand je suis arrivé au Mans, il y avait quasiment... il y avait un peu plus de 11 000 salariés. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Un peu moins de 3 000. Et donc, moi, je dirigeais ce bâtiment-là, qui est ce qu'on appelle donc le comité d'entreprise lié à cette entreprise. Là, ce sont les bureaux, etc. Quoi. L'entrée, là, un grand hall, etc. Ici, c'est une grande salle d'évolution sur le plan des activités physiques, sportives. Voilà. Dedans, il y a à peu près 250 mètres linéaires d'exposition qu'on peut faire avec des simèzes, etc. Il y a une salle de spectacle qui fait à peu près 300 places. On avait une école de musique et une école d'art dramatique aussi. Enfin, bon, tout ça, c'est des activités qui ont été complètement évacuée quoi, par les nouveaux gestionnaires qui, eux, maintenant, au lieu de privilégier le vivre ensemble, ils ont complètement sombré dans la distribution. Quoi. C'est-à-dire que le CE, c'est un complément de salaire. Quoi. Non, j'y retourne pas parce que j'ai donné beaucoup, beaucoup de ma vie, quoi, tu vois. Mais j'ai donné pas parce que je suis un héros ou quoi. C'était comme ça, quoi. J'avais la chance de faire un boulot qui était en complète relation avec mes options philosophiques. Donc, en fait, il y avait une espèce de confusion des genres entre une activité un peu militante et puis une activité professionnelle. Et maintenant, quoi, c'est devenu, il y a un accueil pour entrer dans les bureaux, il faut faire un code, enfin, tu vois, pour moi, ça n'a plus rien à voir. Il y a une perte de sens totale, enfin, selon moi, avec ce qu'est un comité d'entreprise, quoi. Moi, j'ai rien fait quand je suis parti. J'ai pas fait de pot et tout ça, quoi. Tu sais, il y a un moment, tu vois, il y a quelque chose qui me gêne, je me dis que c'est des gens qui ont quand même un peu l'ego boursouflé, quoi, qui font ça, quoi. Et quand je me mettais à faire la liste de ceux que je pourrais inviter, c'était sans fin, quoi. Et d'organiser un raout comme ça, où j'aurais appelé 300 personnes ou 400 personnes, tu vois, parce que je les avais approchés de près ou de loin, j'avais fait des choses avec eux, etc. Je me dis, mais... pour qui tu te prends, quoi, tu vois, c'est... Alors ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est des gens qui étaient en retraite et que tu vois, mais alors, deux ou trois, allez, même six mois après, quoi, des gens qui sont tristes et tout, parce que les mecs, ils te disent, bon, ben voilà, moi, j'ai bossé toute ma vie, mon boulot, c'était un boulot à la con, je me faisais chier, fallait que je me lève, je prenais un antidépresseur, sinon je serais prêt à rentrer bosser et tout ça. Mais le boulot, c'est vrai, c'est la bouffe le midi où on raconte le programme de télé de la veille, c'est peut-être pas très passionnant, mais c'est le café, c'est des moments volés, etc. C'est les copains, tu vois, et ça, tu l'as plus, quoi.
Pendant 20 ans, je l'ai entendu se présenter aux gens qu'il rencontrait, les amis comme les nouveaux venus. Yves Larousse,
Renaud Le Mans, France.
Renaud Le Mans, France. Si tu veux, c'était une boutade. N'empêche que Yves Larousse, c'était ça. C'était le gars qui travaillait au CE Renault. C'était lié à son identité, quoi.
Ah bah oui, j'étais fier de ça.
Mais t'en étais fier, mais non seulement t'en étais fier, mais t'en étais complètement imprégné, quoi. Tu étais ton travail. Et du coup, le jour où ça s'arrête, en plus ça s'arrête dans des conditions qui sont très douloureuses, eh ben, Yves Larousse, il n'est plus rien. Voilà. Et depuis, tu te cherches.
Peut-être que si on arrivait à construire une société où... ce ne serait pas le travail qui prime pour avoir une identité sociale, le travail deviendrait peut-être plus secondaire. Mais aujourd'hui, c'est quand même déterminant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui bossent, ils sont dans la vie, dans la vraie vie. Et ceux qui ne bossent pas, ils ne sont plus dans la vraie vie, quoi.
Enfin, de toute manière, ce qui est vrai, c'est que tu as perdu ton identité ce jour-là. Et que depuis... eh ben, il a fallu que tu réapprennes à vivre avec toi-même sans artifice, quoi. Parce que le boulot, ça permet de remplir les vides, ça remplit les silences.
Si c'était pas du ça, coup, ça serait autre chose. Mais le remplissage, ça existe dans toutes les vies.
Ben oui, mais toi, c'était ton activité professionnelle, ton remplissage.
Je suis inactif. C'est ça que je n'accepte pas. C'est pas une question de dire « je travaille pour gagner de l'argent ». J'ai toujours aimé mon travail. Même quand j'étais chez Michelin dans des postes qui ne me plaisaient pas, j'ai toujours travaillé. Sur les 35 années de présence chez Michelin, j'en ai passé 16 en équipe, en 3-8. Le matin, de 5h à 13h, l'après-midi de 13h à 21h, et les nuits, de 21h à 5h. Et passer en équipe à 50 ans, vraiment en 3-8, c'est quelque chose de costaud au niveau de récupération, quoi. Puisque le sommeil n'était plus là, j'ai complètement perdu la notion du sommeil à ce niveau-là. Même maintenant, c'est une catastrophe. Des fois, à 2-3 heures du matin, je suis là. L'autre jour, dans la nuit de samedi dimanche, j'ai envoyé des messages, j'étais 3h15 du matin, sur Internet. Malgré ça, le jour où on se retrouve à la retraite, eh bien, ce n'est pas évident, même si on y a pensé sans y penser, mais... Pour moi, de toute façon, la retraite n'a jamais été une chose que je voyais arriver, parce que je n'en voulais pas. Mon chef m'a fait rentrer dans le bureau, il m'a dit « Assieds-toi ». Je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a dit « Bon ben voilà, Gérard, ça devrait déjà faire 15 jours que tu devrais être parti ». Et là, heureusement que j'étais assis, parce que ça a été l'assommoir. J'aurais voulu travailler au moins jusqu'à 60 ans. J'estimais que j'étais encore apte à travailler. Une pré-retraite, pour moi, c'est comme si on était mis à la porte, d'abord. Ce n'est pas aller jusqu'au bout du contrat. Pour moi, le contrat, il allait jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire la vraie retraite. J'ai fait la proposition à ma maîtrise. La réponse, ça a été « Écoute, tu pars maintenant, ou alors, jusqu'à 60 ans, tu reprends les équipes derrière une machine. » Donc, dans ces coups de temps-là, il n'y a pas le choix. Les 3-8, j'en avais donné. Travailler derrière une machine, s'il avait fallu. Bon, mais en 3-8, non. Donc, quand c'est comme ça, bon ben, on prend la porte, quoi. Et ça... En travers des gorges.
Avant, je pensais que j'avais bien préparé mon départ, quoi. À la fois, c'est moi qui m'étais foutu à la porte, j'avais signé le plan social, mon remplaçant, il était désigné, enfin, il y avait des choses qui étaient faites. J'étais fier de moi, quoi. Tu vois, je trouvais que c'était bien, que c'était bien fait, que la continuité était assurée, machin, et tout ça. Bon. J'étais encore dans cette espèce d'idée que, ouais, bah, je ferai tout ce que j'ai dit que je ferai quand je serai en retraite, dans la non-activité, etc. Je suis passé, donc, du renoncement à un certain stress professionnel auquel j'ai substitué un stress, on va dire, associatif. C'est-à-dire que je me suis investi dans un milieu associatif où j'étais déjà. Et là aussi, il y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait cette substitution, quoi. Donc j'ai un moment où j'ai levé le pied et je me suis dit, il faut que j'aille vraiment vers la non-activité, quoi. Vers le rien faire. Accepter de ne rien faire. Accepter, par exemple, que de ne rien faire, ce soit faire quelque chose. En fait, je me dis, bah, je vais faire des listes, quoi, de ce que je veux faire. Alors, je fais des listes que je tape à l'ordinateur. Alors, il y en a qui passent, que j'essaie de faire vainement passer de long terme à moyen terme, voire à court terme, mais j'ai beaucoup de mal. Et ben, voilà, quand tu fais ce genre de liste, ben, tu t'aperçois que tu fais pas grand-chose, quoi. Tu fais d'autres choses, des choses qui t'échappent complètement, mais que tu n'avais pas prévu que tu ferais, que tu n'es pas quantifié. Et puis... Ce qui fait que quand tu te retrouves dans la non-activité, bah toi qui te prenais pour un super gestionnaire du temps, pour un super organisateur, machin et tout, tu es comme un con à ne pas savoir ce que tu es. Tu es riche de temps et tu as le sentiment d'un immense gâchis, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, de ne rien foutre, quoi, d'avoir ce temps-là. Et de ne pas faire quelque chose qui soit brillant, gratifiant, et puis de baliser un peu sa vie pour que les choses elles, se fassent. Tu as l'impression que le temps, il te file entre les doigts sans que, que ça ait produit quelque chose d'intéressant, de passionnant. Allô ? Salut ? Oui ? Attends, je t'ai pas reconnu. Ah, Marc, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? Ah, oui, mais tu l'as fait quand ? Bah, écoute, il faudrait que je te rappelle un peu plus tard, parce que là, je suis dans une situation un peu délicate. Je peux pas me mettre à t'expliquer la recette de la truffade.
Dans ma tête, je ne suis pas retraité... Non, ça, pas du tout. Pas du tout. Rencontrer un retraité, deux, trois mots en passant, ça me va bien, mais dans ma tête, je ne suis pas du tout un retraité. Et je ne fais partie d'aucune association de club de marcheurs ou ceci ou de cela. Non, je ne me sens pas retraité. Là, vendredi et samedi prochain, je vais aller au Mans voir une course de voiture. Le 7 octobre à Tours, il va y avoir une grosse réunion sur les bénévoles, les assurances. Donc, jusqu'au 7 octobre, je suis impliqué dans l'organisation de cet événement. Donc, bah, il y a ça. Le 15 octobre, j'irai aussi au Bugatti, parce qu'il y a encore une autre course de voiture. Au mois de janvier, je vais avoir deux ou trois assemblées générales dans le roller. Donc, ça va m'occuper un petit peu. Peut-être début novembre, j'irai à Paris pour voir la rétrospective du Paris-Dakar. Mais enfin bon, mais si vous voulez par là, les journées ne sont pas occupées comme il le faudrait. Je m'ennuie.
4-5. Bon, monsieur Louis. À 55, avec même 100 plaques pour partir, parce qu'à l'époque... J'ai des ingénieurs de haut niveau. À la sortie, tu les revoyais un an après, ils pleuraient comme des madeleines parce que c'était pas les sous. Mais à la maison, ben, ils se font chier. S'il n'y a rien à foutre. Vous resteriez à la maison sans rien faire ?
Il me faut une activité, ça c'est certain.
Voilà.
Mais si je gagnerais ma vie sans travailler, je ne travaillerais pas. Je me trouverais des autres occupations quand même.
Il faudra bien quand même s'occuper.
Oui, c'est clair.
Mais moi j'avoue que ça ne me déplaît pas d'être là alors que je pourrais être à la maison. Le bouquin, la télé, le machin, ça va à moi, mais...
Si on veut ça rien faire, on s'enterre tout seul.
Je pense qu'on va devenir des petits vieux en moins de deux, quoi.
Je viens des végétaux.
Oui, alors c'est pas bon, hein. Je m'appelle Monsieur Jean, c'est comme ça que les clients m'appellent aussi, d'ailleurs. Hein. On travaille ici avec mon épouse et mon fils. Dans une brasserie à côté de la République. J'ai commencé bien sûr par faire le garçon le commis et le garçon pendant pas mal d'années. Ensuite, on a pris quelque chose avec mon épouse.
Voilà, mademoiselle, merci.
Et là, maintenant, je suis censé être en retraite, bien sûr. Mais bon, on donne un coup de main au fils.
Le jus d'orange, c'est 4 vins, c'est sûr. Et le 3, le thé, c'est toujours 3, ça n'a pas changé ?
Oui.
Oui, alors 7 vins, merci.
Et j'espère encore faire une petite année au moins. Après, on pensera à la retraite.
C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Philippe. Ah, c'est Philippe ? Ah, je croyais partir. S'il n'y avait pas le problème de la fatigue, parce que depuis 70 à 16 heures par jour, Sinon, moi, je serais resté encore un peu, hein. Mais c'est mes jambes qui ne veulent plus avancer. Et oui.
Je m'organisais comme je pouvais, comme je voulais, dans la maison, hein, les problèmes de ménage, de lessive, voilà. Donc lui, au début, il a été sympa, il a voulu prendre des choses que je faisais, et puis forcément, c'était pas fait comme moi je faisais, donc c'était pas bien, forcément. La cuisine a un gros souci, la cuisine, parce que... on n'aime pas les mêmes choses. On fait pas la cuisine pareil. Donc j'étais un peu emmerdée là-dessus. Bon, c'est vrai que c'était des fois assez difficile de se retrouver l'un avec l'autre, hein, c'est vrai. Voilà, surtout que lui, il n'était pas spécialement gay. Hein. Hein, il était même, voire plutôt déprimé et déprimant. Il n'y avait rien qui était bien. Mais non, mais autrement, non, je pense qu'on a réappris à vivre ensemble, quoi.
Mais en fait, je pense que j'ai réalisé qu'on était dans une maison quand j'ai arrêté de bosser vraiment, quoi. C'est-à-dire concrètement, quoi. Et là, il m'est même arrivé de penser que la maison, elle était trop petite, qu'elle était mal éclairée, que, tu vois. Alors qu'avant, je ne m'occupais pas de ça parce que finalement, j'y vivais à peine, quoi, dans la maison. J'y vivais, bien sûr, mais assez peu.
À donner un coup de main au niveau de la maison, un truc comme ça. Mais bon, je vois avec ma femme, elle a l'habitude, si on allait par là, combien de fois j'ai pu lui proposer ceci ou cela. Non, t'inquiète pas. Bon, il faut réapprendre à vivre ensemble, à se côtoyer, ne pas changer les habitudes de l'autre. Le mardi, c'est la gym, le jeudi, c'est le marché. Voyez-vous, ce sont des trucs que la femme gère, elle a l'habitude de gérer son ménage, les repas qu'elle doit préparer, ses activités. Non pas que de par votre présence vous dérangez, mais par moments vous ne savez pas où vous poser. Alors j'ai son sous-sol. Il y a l'ordinateur. Alors donc je regarde un peu, quoi. Mais pas convaincu du tout. Et je me demande ce que je fais là.
La télé était branchée. C'était en mai-juin, enfin c'était Roland Garros. Je me fais embarquer dans le match Roland Garros. Et alors arrive 16h30, 17h, j'entends la voiture. Elle revient, quoi. Et moi, je n'avais pas quitté la télé. Donc, moi, j'avais à l'époque 57 ou 58 ans, tu vois. J'éteins la télé, je me lève, et elle rentre, tu vois. Bon, puis tout de suite, je lui dis, écoute, tu sais pas ce que je viens de faire. Hein. Je viens de regarder la télé tout l'après-midi. Je n'ai pas fini, d'ailleurs, ça m'intéresse. Et je viens de l'arrêter parce que j'ai entendu la voiture. Elle me dit, mais t'es con, quoi, enfin. Si je te voyais tous les jours devant la télé, je te dirais ça va pas, mais là, enfin, maintenant t'es dans une configuration de vie où si tu veux regarder la télé, tu peux, quoi. Mais tu vois, regarder la télévision l'après-midi, et j'avais pas réalisé ça, si tu veux. Mais le fait qu'elle arrive, d'un seul coup, c'était la société qui arrivait, qui me disait, mais tu es en train de regarder la télé, tu te rends compte à l'heure qu'il est là. Normalement, tu devrais être, je sais pas, au boulot, quoi. Enfin, tu vois. On regarde pas la télé quand les gens travaillent, quoi. La culpabilité que tu trimbales, quoi. T'as cette espèce de culpabilité qui est sourde, là, comme ça, qui est là dans ta vie tous les jours. Il faut des événements comme ça pour que tu l'identifies, quoi.
Oui, t'es même arrivé de penser que c'était vraiment indécent que tu puisses être payé à rien faire.
Ah bah oui, c'est vrai, oui.
Recevoir une retraite...
C'est à la charge de la collectivité.
Voilà...
Il
avait un mal de chien à accepter ça, quoi.
Moi, franchement, je peux aller à beaucoup de manifs, toi, pour défendre les services publics, pour défendre plein de trucs et tout. Parce que je me dis, quand je défile dans la rue, on peut encore penser que je travaille, quoi. Donc que les gens qui travaillent sont dans la rue pour protester que c'est pas bien, quoi. Donc je me dis que je peux pas ne pas y être, quoi. Mais alors aller à une manif de retraité, ça je pourrais pas. Je trouve que c'est... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à penser que c'est pas indécent, quoi. Voilà, ça me... J'irai pas, quoi. Je reçois des papiers et tout, mais j'irai pas, quoi. Je veux bien aller à une manif généraliste, quoi, où on va parler, peut-être que ça parlera des retraités, parce qu'effectivement, il y a des gens quand même qui sont dans la retraite et qui sont dans la merde, quoi. C'est-à-dire ils ont une retraite tellement minime qu'ils peuvent pas vivre, quoi. Les gens qui comprennent ce que je fais, ils plotent, quoi. Ils tâtent, ils caressent et tout. Donc sinon, si ceux qui me regardent ça de loin, puis qui me disent, voilà, oh j'y vois, je ne sais trop quoi, quoi. Bah, effectivement, ça, ils sont pas dedans, parce que... Donc, c'est un atelier qui me sert pour pratiquer la sculpture. C'est plutôt une recherche d'équilibre entre la matière et moi. Et bon, il se trouve que ça fait des objets que d'aucuns qualifient de sculpture, quoi. Donc, quelque chose qui est apparu à ce moment-là aussi, je me suis rendu compte que j'étais comme les autres. C'est-à-dire que j'étais un notable et que bah, finalement, ça me préoccupait plus que je ne l'imaginais. J'ai été un notable et j'ai aimé ça. Mais sauf que ça, je l'ai découvert après parce que je ne l'avais plus. Et ça m'a déçu. Mais ce qui m'a déçu, ce n'est pas de plus être un notable. C'est de découvrir que j'avais pu prendre du plaisir à être un notable. Donc ça m'a, je me suis pas plu, quoi, comme ça. Ça m'a mis un petit peu en crise, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant ça c'est bon, puisque maintenant je peux l'expliquer tout ça, donc ça va. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais déçu de constater que j'étais ça, quoi. Donc conclusion. j'ai passé une partie de ma vie, comme tout le monde, finalement, je dirais à la limite comme tout individu qui vit en société, à construire une image de moi dans le regard des autres, quoi. Et que il y avait une partie de ces constructions qui était liée à mon activité professionnelle et que j'ai laissée là-bas, quoi.